Voilà, bonjour à tous. Joie d'arriver chez vous via la vidéo, mais aussi à vous, merci de m'accueillir et surtout d'accueillir la parole de Dieu que nous allons partager ce matin. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a une certitude, Dieu bénit. Et au travers de sa parole, il va nous réjouir et nous encourager, mais aussi nous exhorter. Aujourd'hui est un jour de grâce que le Seigneur nous accorde pour proclamer le beau nom du Seigneur Jésus et montrer au monde que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et lui demander s'il croit ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Cela fait déjà une semaine que nous avons célébré cette bonne nouvelle de Pâques pour notre foi en Jésus-Christ, une foi qui s'appuie sur un Seigneur vivant, un Seigneur qui est ressuscité, qui est sorti de la mort. Et je nous invite à assister à une conversation assez particulière entre Jésus et Thomas, qui s'est passée il y a environ 1990 ans, en un dimanche comme celui-ci, 8 jours après Pâques. Thomas, on colle sur son dos un adjectif, l'incrédule, une expression aussi que l'on entend aujourd'hui pour exprimer une certaine difficulté à saisir, à croire quoi que ce soit, mais en particulier la parole de Dieu, et malheureusement que l'on rencontre dans la bouche de certains chrétiens, « Ah, moi je suis comme Thomas ». Je dois voir pour croire. Alors qu'en fait, la foi croit l'invisible et ramène dans le visible ce que nous croyons, c'est-à-dire l'invisible, Dieu lui-même. Et je me suis interrogé, est-ce que Thomas serait le seul à avoir des difficultés à croire? Je pense que non. Que s'est-il passé le soir de Pâques? Voici donc une semaine déjà pour nous, mais 1990 ans pour le Seigneur Jésus. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et nous ferons la lecture de ce qui s'est passé le soir de ce jour de la résurrection. Et nous lisons les portes, Jean chapitre 20, verset 19. Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs de Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. » Et tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et quelques versets plus loin, au verset 24, voici ce qu'il est dit. Thomas, appelé Didyme, voilà parfois des mots grecs, parfois des mots araméens, qui signifient « jumeau », Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Question. Où était passé Thomas? Les évangiles se taisent, ne disent rien, bien que les versets suivants laissent supposer que les disciples savaient où Thomas se trouvait, ou tout au moins l'avaient-ils rencontré durant la semaine qui s'est écoulé entre les deux dimanches. Et nous lisons au verset 25, « Les autres disciples dirent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Et la réponse de Thomas est celle-ci, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Ce verset 25 manifeste le refus de Thomas l'incompréhension sur ce que les disciples viennent de raconter, nous avons vu le Seigneur. Thomas ne croit pas, l'incrédulité. Remarquons que les disciples ne disent pas « le Seigneur est ressuscité », mais simplement « nous avons vu le Seigneur ». De tels propos se retrouvent aussi dans la bouche de Marie de Magdala au matin de ce jour de Pâques, de ce jour de la résurrection du Seigneur Jésus, lorsqu'elle s'adresse aux disciples « j'ai vu le Seigneur ». En relisant l'évangile de Jean, le verbe « voir » est souvent utilisé, et en particulier dans cet évangile, on peut lire, je cite quelques versets, mais cela fait partie d'un autre sujet intéressant. Jean chapitre 1, verset 14, « La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons vu, contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. » Au chapitre 14, pour abréger, celui qui a vu le Père, comme tu le dis, c'est moi qui l'ai révélé. Et voilà, vous me voyez et vous voyez le Père. Et on pourrait ainsi étendre le nombre de fois dans cet évangile où le verbe « voir » a été utilisé. Revenons donc à notre histoire de la rencontre de Jésus avec Thomas. Les disciples disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Une affirmation dans la bouche des disciples qui est pleine de joie, pleine d'espérance, pleine de consolation. « Le Seigneur est vivant. Il était devant nous. La mort ne l'a pas retenu. Le tombeau a été ouvert et le Seigneur est sorti vainqueur de la mort. » Mais Thomas reste sceptique face à cette déclaration, face à ce récit, à cette bonne nouvelle. Et il annonce lui-même, Thomas, sa méthode à lui pour croire. Il a besoin de voir, il a besoin lui-même de toucher, il a besoin lui-même de constater les faits. C'est comme si Thomas disait, je ne fais confiance qu'à moi-même, je ne fais confiance qu'à mes doigts, je ne fais confiance qu'à mes mains, qu'à mes yeux. Je veux vérifier vos propos. Est-ce bien ce Jésus que nous avons vu crucifié, qui est sorti de la mort, qui est maintenant vivant? Ce n'est pas un autre. Et je vous invite à lire la suite de ce récit, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 26. 8 jours après Pâques, après la résurrection, pour nous, au XXIe siècle, ce dimanche, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Arrêtons là la lecture. Remarquons que dans ce récit, la peur des Juifs n'est plus mentionnée. Et pourtant, nous sommes face à la même situation. Point par point, comme si l'histoire était réécrite dans sa totalité. C'est Jésus qui a de nouveau pris l'initiative de ce rendez-vous. La porte était fermée, comme 8 jours auparavant. Le corps du Seigneur Jésus, glorifié, n'a plus les limites du corps que Jésus avait dans son ministère terrestre. Jésus sait que Thomas est présent. Voilà une deuxième différence par rapport au texte vécu de la semaine passée. Jésus se tient au milieu. Et dans le sens original, le mot utilisé, c'est « Jésus se tient debout ». Il est debout, c'est-à-dire dans la posture de quelqu'un qui est relevé, et en particulier qui est relevé de la mort. Et Jésus, comme la fois précédente, souhaite la paix. Mais la paix, bien sûr, avec Dieu, comme résultat de sa mort et de sa résurrection, la paix avec Dieu, la possibilité pour celui qui croit d'être réconcilié avec Dieu, et dès lors, lorsque nous portons foi à la parole de Dieu, et lorsque nous en vivons, recevoir dans nos cœurs la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ainsi, comme nous l'avons dit, l'histoire se répète. Et mon avis, c'est que c'est volontaire qu'il en soit ainsi, voulu par Jésus, afin que Thomas n'ait aucun droit de douter sur ce que les disciples ont vécu 8 jours avant et qu'ils ont raconté à Thomas durant la semaine. C'est le même récit, point par point. Et Jésus veut consolider cette parole, la parole des témoins, des disciples. Et après la salutation que Jésus fait aux 11 disciples présents, Jésus s'adresse à Thomas en particulier. Il est possible d'écouter le silence des gestes que Jésus a avec Thomas. À plusieurs reprises, dans les évangiles, nous voyons le regard du Seigneur Jésus qui croise le regard d'autres personnes, le jeune homme riche, Pierre. Et ne serait-ce qu'au travers du regard, ces personnes se sentent sondées, pleines d'amour, pas des regards qui écrasent, mais des regards d'affection. Et si, permettez-moi d'analyser le regard du Seigneur Jésus pendant qu'il donne des ordres à Thomas. Jésus semble dire à Thomas, dans le silence, dans le croisement du regard, « Tu sais, Thomas, il y a 8 jours, je n'étais pas là. Quand tu as exprimé tes doutes, et pourtant, j'ai lu dans ton cœur, j'ai entendu tes revendications. Aujourd'hui, 8 jours après, je suis devant toi. Et je viens répondre à ta demande. J'acquiesce à ta demande. Je m'offre à toi. » Et Jésus, alors de prendre la parole et de dire à Thomas, « Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » 4 ordres que Jésus donne à Thomas. Je ne sais pas si Thomas a pratiqué ces gestes, mais je voudrais méditer sur chacun de ces ordres. L'Évangile se tait, ne raconte rien. Mais dans ma réflexion, je me suis placé dans cette scène et mes pensées, les voici, je les partage avec vous. premier ordre. Thomas, avance ici ton doigt. On est dans le silence du geste. Avance ici. Pas n'importe où, Thomas. Jésus est en train de préciser l'endroit où Thomas doit mettre son doigt. Jésus montre la direction que le doigt de Thomas doit prendre. Ce doigt qui sert à pointer, qui sert à montrer une direction. Jésus, au travers de cet ordre, est-il en train de rappeler à Thomas que dix jours avant, rappelle-toi Thomas, lorsque nous étions dans la chambre haute, après le lavage des pieds, après le repas de Pâques, de cette Pâque juive dans laquelle j'ai initié la Sainte Cène, repas du souvenir de ma mort, de ma résurrection et de l'espérance. Rappelle-toi Thomas. Je vous ai encouragé de ne pas être troublé par les circonstances que vous alliez vivre, de croire en Dieu, de croire en moi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Et nous lisons dans Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne te l'aurais pas dit, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus d'ajouter, vous savez où je vais ? Vous en savez le chemin. Rappelle-toi, Thomas, la question que tu m'as posée. Seigneur, où vas-tu ? Comment pouvons-nous connaître le chemin ? Rappelle-toi, Thomas, je t'ai dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas, avance ici ton doigt. Pas ailleurs, avance-le sur moi. Montre aussi aux autres que je suis le seul chemin qui conduit au Père, que je suis le seul chemin qui conduit à la maison du Père. Montre aux autres que je suis le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Montre-le. C'est là, Thomas, que ton doigt doit être. Deuxième ordre, après avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Regarde. Ouvre tes yeux, Thomas. Ouvre tes yeux sur mes mains. Rappelle-toi que mes mains ont constamment béni. Rappelle-toi combien de fois mes mains ont été tendues pour relever l'indigent, pour relever celui qui était découragé, pour relever un enfant qui était mort, pour guérir un lépreux, pour guérir un homme qui avait la main sèche, pour soulever, pour redresser, mettre sur les pieds un paralytique. J'étais moi, la main du Père, lorsqu'il prononce dans Isaïe 65, j'ai constamment tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Rappelle-toi de cela, Thomas. Un peuple qui marche dans une voie égarée. Rappelle-toi que moi, je suis la main du Père. Regarde mes mains qui ont tant béni. Elles portent maintenant les marques des clous que les hommes ont plantés dans ses mains pour m'empêcher de bénir. Mais ils n'y parviennent pas. Les hommes ont essayé de m'arrêter. Mais déjà sur la croix, alors que mes mains étaient clouées, ma bénédiction était réclamée auprès du Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde, Thomas, mes mains portent les marques des clous. C'est moi, Thomas, qui ai été crucifié. Thomas, mon désir est de te bénir. Et quand nous contemplons les marques de l'amour de Christ pour moi, pour nous, nous entendons sa voix. Je veux te bénir. Troisième ordre. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Thomas, regarde ce côté. C'est celui de mon cœur. Il a été transpercé par un coup de lance. Rappelle-toi que c'est par amour que je me suis livré volontairement à la mort. Une mort que je ne méritais pas, dit Jésus. Mais j'ai pris ta place parce que je savais que tu allais douter de moi. J'ai pris la place de tous les hommes dans leur rébellion contre moi, qui est un péché, afin que quiconque croit au Fils de Dieu, mort et ressuscité, soit sauvé pour l'éternité. Rappelle-toi, Thomas, que de ce côté percé est sorti Jean chapitre 19, du sang et de l'eau. Avance ton doigt, Thomas, dans cette pléant sangloté, et pense jusqu'où je t'ai aimé, toi et tous les hommes. Comprends-tu cet amour? Comprends-tu ce sang qui est versé, un sang qui purifie de tout péché, qui est le sang du rachat de la rédemption, le sang du pardon, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle dans laquelle, toi, tu peux rentrer, Thomas, si tu crois en moi. Sache qu'il est sorti de ce côté percé aussi de l'eau. Et l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Rappelle-toi, Thomas, que dans cette chambre haute, je t'ai aussi parlé qu'il était avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne et parle de moi. Avance ton doigt, ta main, Thomas, et saisis la grâce qui t'est donnée. C'est bien moi, Thomas. J'ai été mort, mais je suis vivant et je suis maintenant debout devant toi, relevé de la mort et vivant pour l'éternité. Regarde-moi, Thomas. Je suis celui qui a été crucifié. On ne sait pas si Thomas a pratiqué les gestes que le Seigneur a posés, a demandés. Mais il est clair, comme pour moi, comme pour chaque Thomas du 21e siècle, et de ce jour, 11 avril 2021, il est clair que pour chaque Thomas, ces paroles doivent suffire pour nous amener à la foi. Ne sois pas incrédule, Thomas. Ne sois pas incrédule, Thomas d'aujourd'hui, mais crois. Littéralement, les verbes utilisés ne deviennent pas incrédules. N'ajoute pas du doute à ma parole, mais crois celle-ci. Cultive en toi cette attitude de cœur, d'entendre, de recevoir ma parole et aussi celle des témoins. Enlevons toute racine d'amertume et de doute qui étouffe cette bonne semence. Enlevons ces cailloux qui empêchent cette semence de prendre racine. Enlevons ces épines qui étouffent par le doute et qui empêchent la parole de prendre vie, de germer, de porter du fruit. Thomas d'aujourd'hui, arrête de mettre des conditions pour croire. Pourquoi as-tu tant de difficultés à croire le récit des disciples? Tu viens de revivre la même situation. En lisant cela et en méditant sur ces ordres, je me suis rendu compte que bien souvent, nous ressemblons à Thomas. Notre foi doit se nourrir de la parole de Dieu et de ce que les témoins oculaires de la résurrection du Seigneur Jésus ont vécu et raconté dans les évangiles. Aujourd'hui, toute la parole de Dieu n'est plus comprise. Toute la parole de Dieu est mise en doute. Et pourtant, l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, disait « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Lisons, rappelons et lisons dans nos pensées les plaies de l'amour du Seigneur Jésus, laissées par les hommes. C'est alors que pour Thomas, d'il y a 2000 ans, le cri jaillit du fond de son cœur, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, Adonai Seigneur, Elohim Dieu, ces deux mots qui existent depuis le début de la création dans l'Ancien Testament pour nous parler de Dieu. » Et Thomas, en utilisant ces deux mots, mon Seigneur et mon Dieu, risque gros pour sa vie. N'est-ce pas pour cela que les Juifs ont décidé que Jésus blasphémait contre Dieu lorsqu'il s'est déclaré étant le Fils de Dieu? Mais dans cette confession, Thomas montre toute la plénitude divine du Seigneur Jésus, dont Paul a parlé en disant que Christ est le Dieu béni éternellement. Colossiens chapitre 1, verset 19, « En lui, en Christ, dans cet homme Christ Jésus, toute la plénitude de Dieu s'est plu à habiter. » Colossiens chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite la plénitude de la déité corporellement. » Cette confession, bien-aimée, elle rejoint le premier verset de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, le verbe, l'action, et la parole était avec Dieu. » Et elle était Dieu. Cette parole, ce verbe de Dieu, a pris forme humaine et porte le nom de Jésus. Entre ces deux versets, le début de l'évangile de Jean et la confession de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, nous pouvons lire l'humanité parfaite du Fils éternel de Dieu qui révèle le Père. Les versets suivants nous le rappellent, et je continue, Jean chapitre 20 et au verset 30. Jésus a encore fait beaucoup, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans les livres. Et au chapitre 21, il est mention que même tous les livres du monde ne suffiraient pas pour écrire tout ce que Jésus a fait. Mais je souligne le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Bien-aimés, toute la révélation de Dieu tend vers cela. Enlevez quoi que ce soit de cette parole divine, c'est faire Dieu menteur. C'est mettre du doute, tel que dans les premiers jours de la création avec Adam. Toute la révélation tend vers cela, à savoir montrer le Fils éternel de Dieu dans l'homme Christ Jésus. Et pour ceux qui sont de croire pleinement dans cette parole, Jésus formule un vœu, et je lis au verset 29, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le mot « ceux » m'interpelle, parce qu'il s'adresse à moi. Il y a, bien sûr, heureusement qu'il y a des témoins oculaires qui ont rapporté dans l'Évangile dont nous venons de lire une portion, qui ont rapporté des faits vécus avec le Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas, nous, des témoins oculaires, mais nous sommes invités à porter foi dans cette parole de témoignage des disciples. Conclusion. Seule la foi en Jésus-Christ donne la vie éternelle. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus est venu pour prendre ta place sur la croix et mourir à ta place? Crois-tu que Jésus, Fils de Dieu éternel, homme et Dieu, mais en tant qu'homme, est mort pour toi, a subi le châtiment, mais qu'il est ressuscité? Crois-tu à cette parole entière, pleine de Genèse à l'Apocalypse? Ou es-tu en train de te dire qu'il y a certains textes de cette parole qui sont des fantasmes, qui ne méritent pas d'être écrits? C'est là, le déluge. Crois-tu que cela a réellement existé? Alors, bien-aimés, nous avons l'occasion d'exercer notre foi qui dépend non pas de ce que nous voyons, mais qui dépend de ce que nous entendons et lisons de cette parole. C'est le cadeau merveilleux que Dieu nous fait par son Esprit de permettre d'entendre, de comprendre les pensées profondes de Dieu, ce mystère insondable de l'amour de Dieu pour nous. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. J'ajoute une petite pensée. Dans ces temps difficiles, chacun, puisque nous sommes privés de nous rassembler, chacun essaie de mille et une manières de combler ce vide en allant sur Internet, écouter des chants. Et je suis le premier concerné par ce qui est édité chaque jour, de visionner des films, parfois romancés, pour joindre deux morceaux de circonstances, d'écouter des prédications. Et je suis étonné que nous ne vérifions pas dans la parole de Dieu si ce que nous avons entendu et vu est conforme à celle-ci. Alors, loin de moi de dire que ce n'est pas bon, hein. Tous ces supports sont utiles, précieux, mais bien aimés, ils ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Jamais. Tel est le vœu que le Seigneur formule pour chacun de nous. Crois au Fils de Dieu. L'apôtre Pierre disait ceci dans sa première épître. Vous aimez le Seigneur sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et comme le Seigneur nous parle au travers de sa parole, du récit que ceux qui ont été les témoins oculaires de sa résurrection, nous devons saisir le témoignage de ses bien-aimés et en être porteurs dans ce monde. Et je termine par l'épître de Jean. Voilà ce qu'il dit, 1 Jean chapitre 1 et au verset 1, qui rejoint le premier verset de son évangile. Au commencement était la parole, nous avons vu, et ce que nous avons dit de la confession de Thomas, et voilà ce qu'il nous est dit dans Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant cette parole de vie, Jésus, Fils de Dieu. Car la vie a été manifestée. Nous l'avons vu, disent les disciples. Nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous ayez, que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit parfaite. Nous prions. Ô Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les enseignements, les encouragements qu'elle nous donne. Et nous sommes là, Seigneur, pour confesser que de foi dans nos vies, dans les pas que nous posons, nous ressemblons tellement à ce Thomas. Nous doutons tellement de ta présence, nous doutons tellement de ton action. Nous doutons tellement en regardant le monde vers où il va, que tu es le maître, que tu diriges toutes choses selon ta préscience. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous des cœurs réceptifs à ta parole. Seigneur, nous voulons enlever de ce cœur si souvent tourmenté, agité dans nos pensées, nous voulons enlever tous ces cailloux, toutes ces épines, toute cette dureté du cœur, afin que ta parole pénètre en nous, qu'elle porte du fruit, qu'elle germe, qu'elle porte du fruit. Que de l'abondance de celle-ci, nous puissions, Seigneur, déverser cette parole autour de nous avec vérité. Seigneur, fais-nous du bien, que ta bénédiction repose sur nous. Et en terminant, Seigneur, cette prière, nous disons comme les disciples autrefois, Seigneur, augmente-nous la foi pour la gloire de ton nom.